Bon matin à chacun. Ça. Pas trop fort, ça va? OK. Ma mère me disait souvent, Michel, t'as une grosse voix de bœuf, fais attention, tu es en avant. Je me souvenais de ma mère, juste avant de monter, je pensais aux dernières paroles de ma mère. Moi et Diane, on a perdu nos parents et à quelque part, ça vous arrive, vous, de vous souvenir des dernières paroles de ceux que vous aimez qui vont partir? J'aurais pu un matin arriver avec une collection de personnes célèbres qui ont dit toutes sortes de choses juste avant de mourir. Voltaire, que lui a combattu l'Évangile. Toute sa vie, le jour de sa mort, les dernières paroles qu'il a dit, j'ai peur de rencontrer celui qui j'ai combattu toute ma vie. Mais c'est ma mère qui est venue, mon père, Gérard, mon oncle, qui a travaillé à l'Assemblée au Cap pendant des années ici. Et des paroles souvent qui sont très personnelles, n'est-ce pas? Et c'est des paroles qu'on veut retenir dans nos cœurs. Et ce matin, je voudrais vous proposer, on va faire la lecture ensemble de 2 Timothée 2, 1 à 13. Mais ce matin, je voudrais vous présenter ce texte comme 5 recommandations d'un père à un fils. On est en l'an 67 environ. L'apôtre Paul sait que sa vie se termine bientôt. Et certains auteurs vont vous dire, la plupart vous dire que 2 Timothée est le testament spirituel de l'apôtre Paul. Et ce qu'il dit dans cette dernière épître, avant sa mort, et il parle à son fils spirituel. On a encore, je ne sais pas si on a encore l'expression au Québec, « tel père, tel fils ». Dans le premier siècle, c'était un peu comme ça. Hein? Le père qui était charpentier, bien, son fils était charpentier. Le père qui était constructeur, bien, le fils était constructeur. Les fermiers, c'était né d'une famille qui avait une ferme. Ton père était fermier, les fils étaient fermiers, puis l'autre fils était fermier. De père en fils. Alors, lorsqu'on rencontrait le père, on disait « ça va-tu bien? » « Oui, ça va bien. » Tu rencontrais le fils, « ça va-tu bien? » Il va dire « oui, ça va bien. » Tu t'aperçois qu'il parle comme son père, il a les habitudes de son père. Même on a des habitudes qu'on prend de nos parents, qu'on veut perdre. Je me souviendrai toujours de mon père quand il pensait qu'il était comme ça dans la chaise berceuse. Là, je la regarde de face, je lui disais « père, c'est agaçant. Robert, c'est agaçant. » Te souviens-tu? Puis une fois, je me suis surpris. J'étais rendu loin, là. J'étais là. Ah ben, j'ai dit ça, là. À quelque part, tel père, tel fils. Et on pourrait dire la même chose, quelqu'un qui vient au Seigneur. Vous avez le privilège d'amener quelqu'un au Seigneur. La personne accepte le Seigneur. Avez-vous remarqué qu'il y a une relation spéciale entre vous et la personne qui vient d'accepter le Seigneur? C'est pas vous qui sauvez, là, hein? Mais il y a une relation spéciale qui se fait. Et là, on commence à déteindre dessus la personne qui nous a accepté, hein? Qui nous a conduit vers le Seigneur par l'aide de l'Esprit, en faire jaune ou pas dans les fleurs du tapis, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous est déjà arrivé? Et là, la personne grandit dans le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui grandit en elle, c'est lui qui grandit dans le Seigneur. Et là, on commence à ressembler à celui qui nous a emmenés au Seigneur. On commence à penser comme lui. Il se peigne sur le côté gauche, je vais me peigner sur le côté gauche. Il met des sujets noirs à la table du Seigneur, je vais mettre des sujets noirs à la table du Seigneur. Tel père, tel fils. Et la relation entre Paul et plusieurs, mais surtout Timothée, c'était une relation où lorsqu'on rencontrait Timothée, on rencontrait l'apôtre Paul, Junior. Ah, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Junior dans l'Assemblée. Je ne savais même pas que ça existait comme nom, mais Junior. Mais on rencontrait Timothée, puis on l'écoutait, là, Timothée, là. Puis on se disait, « Hey, j'entends Paul. » Quand il parle comme Paul, il dit les affaires que Paul dit. Il y a les expressions de Paul. Je me souviens, il y a un frère que je connais, il écoutait des cassettes de Gaston Racine, puis il dormait là-dessus. Quand il prêchait, il parlait comme Gaston Racine. Mes frères! Mais on va aller à nos recommandations. Quel privilège! On est là, l'apôtre Paul, il émet par écrit ses dernières paroles, et puis on a le privilège au travers des siècles, nous l'Église de Jésus-Christ, à être comme des témoins d'une communication très intime entre Paul et Timothée. Alors, tournez avec moi, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, 1 à 13. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, en ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ici se termine la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Alors, je vous propose dans ces textes 5 recommandations que nous allons observer ensemble. Et je vais quand même faire une note à partir du verset 11 à 13. C'est vraiment un petit poème, un petit cantique qui est là. On va en parler ensemble pour la fin, pour conclure. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder qu'est-ce qui est si important dans la pensée de Paul pour mettre par écrit ces dernières paroles-là. Il aurait pu parler peut-être de d'autres choses, comme, je ne sais pas, parler de... Moi, je trouve tout important dans la Bible. Mais Paul a choisi 5 choses, puis on va y regarder ensemble. Puis vous allez voir que c'est très personnel. Il ne s'adresse pas à des incroyants. Il s'adresse à Timothée, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est teinté comme l'apôtre Paul, formé par Paul. Alors, la première recommandation, c'est celle-ci. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous savez, on a parlé beaucoup ce matin, et on a chanté un cantique qui disait « Tu m'as trouvé, hein? » Tu m'as trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Nous sommes qui nous sommes à cause de quoi? La grâce de Dieu. Et on pourrait dire, l'apôtre Paul, tu es en train de mettre les dernières recommandations, puis la première que tu mets sur la table, c'est la grâce de Dieu. Et pourtant, on prend tellement pour acquis cette grâce, tellement, qu'on trouve que c'est une doctrine pas trop importante. On va plutôt parler des prophéties, de l'Apocalypse, des choses mystérieuses. En passant, il y a des mots mystérieux dans la Bible. Là. Si vous sortez tous les mots mystérieux, là, mysterium, là, il y a une série de prédications, il y a 14, 15 à faire là-dessus. Là. Mais non, il ne parle pas de ça. Il parle de se fortifier. Il veut que Timothée trouve de la force, parce que littéralement, en fin de compte, il est en train de lui dire « Puise tes forces dans la grâce de Dieu. » Ah oui? Est-ce que vous vivez des temps difficiles? Où prenez-vous la force pour passer au travers des temps difficiles? Est-ce que c'est le fait que vous connaissez la Bible par cœur, vous citez les livres de la Bible à l'envers, vous êtes super brillant, vous connaissez 3-4 langues, vous, et là, vous êtes un hyperbolé, vous lisez un livre par semaine. J'ai entendu dire qu'il y a un gars qui lisait un livre par jour, mais là, je ne sais pas s'il mange. Là. Mais c'est pour ça. Paul va mettre l'emphase de Timothée, son enfant bien-aimé, son testament spirituel. Puis la première chose qu'il va dire, « Puise tes forces dans la grâce », dans la version sommaire. Impératif. Essayez de trouver des forces en autre chose qu'à la grâce de Dieu. Vous allez être perdant. Je vais être perdant, mes amis. Parce qu'il vient un temps dans la vie, là, la connaissance enfle, mais l'esprit vivifie. Il vient un temps dans la vie où ce que la grâce de Dieu est quelque chose qui nous rend sains et saufs. En passant, le mot « salut » veut dire quoi? Sain et sauf. Lorsque les choses ne vont pas comme vous voudriez que ça ait, c'est la grâce de Dieu. Vous priez, puis la réponse, c'est non. Comment vous réconforter? Comment être fort? C'est en sachant que Dieu est un Dieu gracieux. Vous regardez dans le miroir spirituel, votre vie spirituelle, et le reflet de votre vie spirituelle vous insatisfait. Là, vous dites, ça me prend un régime. Vous essayez le régime pour transformer l'athlète spirituel intérieur que vous êtes. Et puis, vous regardez 2 semaines plus tard dans le miroir, il n'y a rien qui a bougé. Mes amis, les régimes de vie, les lois qu'on se donne, les allures spirituelles sur lesquelles on s'attache pour dire « Je suis chrétien, regardez-moi, moi je m'habille de même, je parle de même, je ris comme ça puis je pleure comme ça. » Ça ne vous fortifie pas, ça. Mais la grâce de Dieu vous fortifie. Quelque chose qui vient de Dieu, qui nous donne une force, parce que ce que nous avons est une grâce, est une chose imméritée, c'est une faveur de sa majesté à ses sujets. Quel privilège d'être enfant de Dieu. On le perd de vue, vous savez. On coupe les cheveux en quatre avec bien des petites affaires. Mais on perd de vue le privilège de qui nous sommes à cause de la grâce de Dieu. Grâce sur grâce. Et c'est tellement épeurant de parler de la grâce de Dieu. C'est un mot qu'on emploie tellement. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. C'est la cloche. Michel, arrête. On passe à l'autre point. La grâce de Dieu. Fortifie-toi. Impératif présent. Lâche pas. Puise tes forces, Timothée, dans la grâce de Dieu. Êtes-vous fatigué? Vous cherchez-vous un verset? Cherchez-vous une phrase où ça va vous donner de la force? Cherchez-vous un gourou à quelque part qui va vous dire comment penser? Parce que vous pensez que vous allez trouver de la force dans ça? Non. La force spirituelle vient de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu. Il y a des livres entiers qui ont été écrits. Juste sur ce mot-là, il y a un livre que... Il est ça d'épais, là. Je me souviens. Quand, oui, grâce. Pas qu'un, il y en a plus qu'un. J'ai vu, là. Il y a un paquet de livres qui ont été écrits sur la grâce. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais moi, le point que je veux faire ce matin, frères et sœurs, c'est comment puiser dans la grâce? Comment ça marche, ça? C'est bien beau, là. OK, hey, je vais te donner la recette. Ça va pas bien? Les choses vont mal? les choses pourraient aller mieux. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie spirituelle. Vous n'êtes pas satisfait de votre lutte contre le péché. Vous n'avez pas pu distancer vos chutes spirituelles plus que 2 secondes, plus que 2 minutes, 2 jours, 2 mois, 2 ans. Peu importe. Vous êtes insatisfait? La grâce de Dieu. Va chercher ta force dans la grâce de Dieu qui a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne. Et là, on va dans le titre, Cette grâce nous renseigne à renoncer à l'impiété. Et là, c'est de la brosse. Le système de ce monde qui veut empiéter sur notre vie spirituelle, nous enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Au lieu de prendre ce que la parole de Dieu dit, on prend ce que le monde dit. Ou que la populace dit. Deuxième recommandation, enseigne les autres. Et c'est intéressant de voir cette deuxième recommandation parce que c'est une recommandation qu'on prend souvent pour les spécialistes enseignants. Et c'est bien, il y a même une école biblique qui s'appelait 222. C'est intéressant. Et c'est intéressant de voir à ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Et c'est intéressant, l'apôtre Paul ne prend pas Anaïr, qui dit Maul. Dans d'autres textes, il prend. Il ne voit pas l'importance de vraiment parler du Maul qui enseigne, mais il parle à tout le monde, hommes et femmes. Ce qu'on a entendu. Timothée, ce que tu as entendu, là, fais ce que j'ai fait avec toi. Vous avez témoigné quelqu'un dernièrement? La seule chose que vous pouvez transmettre à cette personne-là, c'est ce que vous savez, ce que vous êtes, vos priorités à vous, vos valeurs géochrétiennes à vous. C'est vous qui allez les transmettre à cette personne-là, soyez un homme ou une femme. À quelque part, on est là, nous, pour transmettre ce qu'on a reçu. Quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est vrai? Je ne peux pas donner 3 000 piastres par mois à l'œuvre. Je vais en recevoir 2 200. Non, pas tout à fait. Octo, un petit peu plus. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et dans l'enseignement, c'est la même chose. À quelque part, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important de se fortifier dans la grâce. C'est pour ça que c'est important de compter sur la grâce pour être fort dans le Seigneur et non pas sur la connaissance. Et à quelque part, on est là pour le transmettre aux autres. Et fidèle, qu'il soit capable. Et c'est intéressant le mot « capable » d'enseigner aux autres. Êtes-vous capable d'enseigner ce que vous savez? Le problème, c'est quand on commence à enseigner des choses qu'on ne sait pas trop. On a pogné des petites formules dans les livres, là, puis on sort une phrase clé. Ah, hey, tu liras ce livre-là, là, il est hot, ce gars-là, dans cet incite-là. Puis c'est inclus, il faut étudier. Lui, il sait ce que c'est le Saint-Esprit. Là. Ou un autre, c'est un autre patente là, sur les guérisons. Ou c'est un autre patente sur l'Évangile d'abondance. Et puis là, là, on est capable d'enseigner, là. C'est pas ça. Ici, on a l'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Timothée, qui tu es? Ce que tu as entendu de moi, tu as entendu mes paroles, confie-les à d'autres. Mais c'est toi qui vas le dire, avec ta personnalité, avec qui tu es, avec ton expérience de vie. Et personne ne peut prendre votre place pour parler de Jésus. » À un autre. Que le Seigneur met l'autre sur votre chemin. Il y avait cette vieille histoire qui disait, « Hey, j'ai rencontré un gars, il est intéressé à l'Évangile, puis j'ai pris rendez-vous avec le pasteur. » Vous savez, le Seigneur nous donne à nous personnellement. Vous savez, le salut, c'est personnel. Dire ce que Jésus a fait pour vous. Dire ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Oui, écoute, confie-le à des hommes. Dis-le. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est important. Enseignez les autres. Enseignez les autres. Enseignez, vous savez, il y en a qui ont peur de ça, mais didaskaleos, en fin de compte, c'est juste un mot qui veut dire transmettre. tu peux enseigner quelqu'un comment piloter un avion. Il y en a deux qui suivaient des cours d'avion. Il y a deux personnes qui suivaient des cours d'avion cette semaine, puis ils se sont frappés en haut d'un centre d'achat. Oui, le gars qui les enseignait, ou t'es des incompétents. Donc, les deux possibilités sont là. Mal enseigné ou incompétent quand il était dedans. On va le savoir, ils sont en train de faire une enquête. Puis, à quelque part, l'Évangile, la simplicité de l'Évangile, c'est la simplicité de Christ. La simplicité de Christ, on a tellement habileté à complexe, à mettre ça complexe et difficile, qu'on en perd le sens réel. Puis j'imagine l'apôtre Paul lorsqu'il parlait de Jésus, lorsqu'il se parlait des choses de Dieu, lorsqu'il parlait d'Église. Il n'avait pas été lire un livre à cachette pour dire ce que le livre a dit. Vous comprenez? C'est qu'il avait saisi des vérités spirituelles. Et moi, je fais la différence entre quelqu'un qui lit un livre pour citer des phrases du livre, puis quelqu'un qui a saisi des vérités spirituelles en lisant le livre. Pas pareil. Pas pareil. Ça rentre dans les tripes, ça rentre dans ta personnalité, ça rentre dans ton langage, ça rentre dans ton comportement, ça rentre dans ta pensée. Et cette parole, cette vérité biblique te transforme. Troisième recommandation. Et c'est intéressant parce que cette recommandation parle de l'apôtre Paul. Qui n'a pas souffert comme Paul? Hein? Qui a souffert comme Paul? Personne. Qui n'a pas souffert? Personne. On souffre tous. Vous n'avez pas souffert encore? Soyez patients, ça va arriver. Ça sera pas long. On va tous souffrir. On va tous souffrir. Et l'apôtre Paul, comme troisième recommandation, va dire à Timothée, « Timothée, même 1 Pierre 4.1 le dit, hein? Armez-vous de la pensée de souffrir comme Christ a souffert dans la chair. Pourquoi qu'il y a des gens qui basent leur joie chrétienne sur les circonstances de non-souffrance? Pourquoi? Vous allez perdre la joie de votre salut. Vous allez perdre la joie de votre salut si vous faites ça. La joie d'appartenir à Christ est là malgré la souffrance. Puis il y a des tonnes de témoins au travers de l'histoire de l'Église. Dans les prisons, dans les catacombes, dans les tortures. Que ce n'est pas les circonstances qui déterminaient leur amour pour Christ. Mais c'est le fait qu'ils avaient saisi qui était vraiment Jésus-Christ, Dieu incarné, sauveur du monde. Sauf avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Prends part à mes mauvais traitements, c'est ce qu'il veut dire. Si tu, il dit quasiment, écoute, si tu ne souffres pas, là, Timothée, là, pose-toi des questions. Pose-toi des questions si tu ne souffres pas. Parce que tu vas t'étouffer dans ta médiocrité. On monte le courant dans le système de ce monde dans lequel on est. N'oublions pas ça, frère et sœur. Et puis l'apôtre Paul va donner comme troisième recommandation, prends part à de mauvais traitements. Casse-toi pas la tête, tu vas en avoir. Là, vous allez dire, bon, Michel, parce que tu es un mélancolique, tu penses de même. Que soyez sanguin, colérique, mélancolique, phlegmatique, soyez un tigre, un lion, un chat ou un rat, peu importe, on y goûte tous. Pourquoi? Parce que le système est tricoté pour faire souffrir les enfants de Dieu, les éloigner de la croix, les éloigner de la joie de leur salut, pas les éloigner du salut, mais la joie de leur salut, leur donner des faux buts chrétiens avec des tangentes qui les emmènent loin d'une vie chrétienne équilibrée, et on commence à mettre l'importance sur des choses secondaires et tertiaires. Et là, on essaye de prendre le moule de tout le monde, et surtout du monde, pour ne pas souffrir, pas être ridiculisé. Dernière fois, j'ai fait rire de moi, mais c'est à ma fameuse place de témoignage McDonald's. J'étais content, d'un certain sens. J'étais content. Il faut contrer ça une bonne fois. Mais, non, pas le temps, là. Mais, tu sais, j'avais entendu dire une fois, moi, il y a un gars qui faisait du porte-à-porte, puis en faisant du porte-à-porte, il a reçu un verre d'eau en pleine face. Puis ça, c'est intéressant, ça. C'est une histoire de même. Tu sais, puis je n'étais pas avec le gars, là. J'ai entendu dire ça. Mais le gars, au lieu de se choquer, là, il s'en allait puis il remerciait le Seigneur. Il dit, « Seigneur, je réalise là, que le monde ne nous écoute pas parce qu'il ne t'aime pas. Puis ils ont besoin d'être aimés parce qu'ils sont comme moi avant que je t'accepte. J'étais comme ça. » C'est effectivement le gars, avant qu'il accepte le Seigneur, c'était un violent envers les chrétiens. Puis le Seigneur a changé son cœur de même. Comment est-ce qu'il a fait? Ah! Et il a saisi la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui nous enseigne à renoncer à toute impiété, toute injustice des hommes. Prends part. Et là, il va arriver avec trois images. Pour ça, je vais parler de mes trois images, c'est même plus important que ma petite histoire. Les trois images. Il y a 8 images dans 2 Timothée, mais je n'ai pris rien que 3. Première image, c'est le soldat. Regardez bien. Il y a un gros message dans ça, là. Et je vous donne ça vite, puis vous étudierez ça cette semaine chez vous. 2 Timothée 4. Il dit, « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'enrôle. » Moi, je n'ai jamais été dans l'armée, mais le principe a l'air bon, hein? Surtout au 1er siècle, parce que moi, dire de quoi, quand le soldat disait, là, tu vas garder telle personne, tel prisonnier, là, puis le prisonnier se sauvait, là, ben, tu perdais la tête. Ça veut dire, il fallait que tu plais à celui qui t'a enrôlé. Tu as été enrôlé pour checker ce prisonnier-là. Il chante des cantiques, les portes se rouvrent. Ah, moi, j'aime mieux mourir. Hein? Tac. Et l'apôtre Paul va lâcher un cri, il va dire, « Non, 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 tutoie pas, on est tout de suite. » C'est ça, un soldat. Le Seigneur a dit aux soldats, « Écoute les soldats, là, contentez-vous de votre solde. » C'est intéressant, il n'a pas dit, « Vous n'avez pas le droit d'être soldat. » Il a dit, « Contentez-vous de votre solde. » Et le contentement vient avec la solde du soldat. Et l'apôtre Paul, il avait une vision enchaînée dans le temps de sa vie. Il était attaché à un soldat, n'est-ce pas? Puis là, on voit Éphésiens, hein, quand il nous décrit le soldat, là. Éphésiens 6. Mais il prend encore cette image-là, cette métaphore, cette analogie de soldat. Puis le mot « s'embarrasser », c'est le mot comme « tricoter »,« tisser ». Tu es un soldat pour Jésus-Christ? Ben, quand je faisais ça, je réfléchissais à ça. Je dis, Michel, tu es un soldat de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as tricoté dans ta vie qu'au lieu de t'emmener par en avant pour le Seigneur, ça te recule pour le Seigneur. Ça te paralyse. Stagnant, sur place. Vous savez ce que c'est? Moi, un frère qui m'aimait beaucoup m'a prêté un affaire qui fait du sur place. Sur place. Vous savez, il nous fait réfléchir sur ça. Le soldat, il n'est pas là pour faire du surplace, il est là pour plaire. Puis, plaire, c'est intéressant s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Cette belle image, en fin de compte, nous dit que où va notre amour? Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris en m'en allant. C'est dans les choses que j'aime le plus que je vais mettre le plus d'argent. OK, non, vous dites dans votre tête, là, ah oui, mais il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité. Je suis bien d'accord, il faut survivre, il faut s'acheter un manteau, faut s'acheter des pelles, des affaires là. Mais à part du nécessaire pour la survie, là, les 80 autres % là, de notre argent, là, on la dépense où? Dans les choses qu'on aime le plus. Alors, les choses que j'aime le plus, est-ce que le Seigneur est inclus dans ça. Hein? Que ce soit n'importe quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est approuvé par Dieu? Ou est-ce des futilités? Et je vous dis que plaire au Seigneur dans toutes ses décisions, c'est important. Je vais aller un peu plus vite. Mais vous comprenez l'idée, là, on est là pour pas se tricoter des enfargements, si on peut dire, dans notre vie. Mais on est là pour plaire au Seigneur. Fait qu'on peut avoir, comme Hébreux 12, 1 et 2 nous dit, en rejetant tout fardeau et tout péché qui facilement nous enveloppe, on est dans cette course à obstacles et non pas une course l'un contre l'autre pour la gloire de Jésus-Christ, les yeux fixés sur lui. Il va prendre l'athlète. L'athlète lutte, hein, il se bat. Il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de victoire s'il n'a pas combattu suivant les règles. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a enseigné à renoncer. Juste le verbe renoncer, là. Là, il y a une liste d'épicerie dans le titre. Combattre selon les règles. Qu'est-ce qu'il veut dire à Timothée, son fils, là? Il y a une manière de faire les choses. Il y a des choses, c'est bien. Il y a des choses appropriées. Il y a des choses non appropriées. Il y a des choses raisonnables, il y a des choses non raisonnables. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on lit la Bible qu'il n'y a plus rien de déraisonnable puis il n'y a plus rien de raisonnable. C'est l'inverse. On voit plus clair. Donc, on doit faire attention aux choses déraisonnables. Les règles. Et là, on pourrait en faire des listes, hein? L'athlète a des règles. Vous allez dire, oui, mais il y a des règles, mais ça dépend de l'athlète. Il est-tu en course? C'est un courseur. Il y a des règles pour les courseurs. Il y a des règles pour les lutteurs. Il y a des règles pour les conducteurs automobiles. Il y a des règles pour toutes les disciplines. Il y a du gros bon sens. Moi, j'appelle ça du bon sens spirituel. Je vous le dis, là, écoutez quelqu'un parler là, qui a un mois dans le Seigneur, deux semaines dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur, si on l'écoute, tu vas le voir tout de suite, qu'il y a du bon sens spirituel ou pas du bon sens. S'il est vraiment connecté, tu le vois tout de suite. C'est comme un bouton sur le bout du nez. C'est comme le bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de tirelutter. Mais là, il ne tirelute pas spirituellement ce qu'il devrait tirelutter. Ça cloche à s'en allant. Alors, la perception de Dieu cloche, les attributs de Dieu clochent, les priorités clochent, les valeurs judéo-chrétiennes clochent. Mais il a accepté le Seigneur. Mais il y a des règles. Il y a des comportements que Dieu approuve et des comportements que Dieu n'approuve pas. Et cela, c'est important. Le troisième, je vais aller rapidement, le troisième, c'est le laboureur qui prospère. Vous savez, l'apôtre Paul, il n'est pas si négatif que ça. Il veut la prospérité de Timothée, là. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le laboureur qui peine doit être le premier à récolter les fruits. Il y a des fruits dans tout cela. Il y a un fruit qu'on divise en trois, hein, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, etc. Mais ici, l'emphase, le laboureur qui peine, celui qui... celui qui va y aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. Le mot « peine », là, c'est celui qui va labourer, oui, mais il va labourer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force du tout pour le faire. Alors vient le fruit. Parce que s'il se fie à sa paresse, s'il se fie à ses choses naturelles qui l'emmènent loin de Dieu, il n'y aura pas de fruit. Il faut qu'il travaille fort. J'accordais des hommes de Dieu très célèbres, de haut calibre, là, qu'on pourrait dire, là, comme Piper, puis MacArthur, puis bien d'autres, je pourrais vous nommer. Une fois, il y a une question qui a été posée à MacArthur. Il a dit, « Hey, monsieur MacArthur, j'aimerais ça prêcher comme vous. Y a-t-il un truc? » Il dit, « Y a pas de truc. » Il dit, « Va t'asseoir dans ton bureau 8 heures par jour avec le même verset. » Puis il dit, « Tu vas sortir une bonne prédication. » C'est ça. Tu passes 8 heures par jour, 5 jours par semaine à étudier un verset, tu as eu le temps de le creuser. Le problème aujourd'hui avec le tout-cuit, j'appelle ça des tout-cuits, là, c'est qu'on va sur Internet et on ramasse des tout-cuits, et puis on ramasse avec des tout-cuits, puis on se ramasse avec des tout-cuits, bien, c'est comme la nourriture congelée. Là, c'est être congelé, surcongelé, puis là, tu la réchauffes au je ne sais pas si vous voulez dire ça de même, mais en tout cas, si tu réchauffes ça à micro-ondes, hein? C'est la diable de micro-ondes, c'est important. Surtout quand on part de 4 à 2 là, dans une maison, il y a bien des restants. Le micro-ondes, bien important. C'est bien important. Alors, là, voilà. Mais regardez bien, là, je vais faire. Là, il va dire, il dit, comprenez-vous ça? Est-ce que vous saisissez? votre perception avec l'esprit, comprendre avec la compréhension, penser faire, attention à réfléchir, considérer. Ça, c'est le verbe qui est là. Impératif. Il va dire, réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Toutes ces choses. Ah oui? Quelles choses? Ben, c'est là ma question. Quelles choses? Les choses qu'il a dit l'antécédent? Regardez bien. Trois images. Lisez-les ensemble. Qu'est-ce que Paul veut dire à son enfant Timothée dans la foi? Oublie pas Timothée, tu es là pour plaire à Dieu, puis vis pas comme n'importe qui en se foutant ce que Dieu dit sur la manière de vivre et les valeurs judéo-chrétiennes, les valeurs judéo-chrétiennes. Puis dis-toi, en enfin, mon gars, ça va être dur. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis c'est de la réalité. Vous voulez plaire à Dieu? Arrangez-vous pour parler, faire et agir comme Dieu veut que vous le fassiez pour sa gloire à lui, vous allez lui plaire. Il y aura des règles. Ah, oh, moi, je suis libre. Une fois, quelqu'un m'avait dit, toi avec ta grosse Bible, tu ne vas pas me dire comment vivre ma vie. Oh non, il n'y a pas besoin d'aller dire à quelqu'un comment vivre sa vie. Mais il m'a dit de quoi? Si tu es un soldat, tu veux plaire à Dieu. Tu es un soldat de Dieu. Il dit, si tu es un athlète, là, qui est là pour la victoire, là, qui est là pour glorifier Dieu, là, puis qui est là pour honorer Dieu dans sa vie, là, il va avoir des règles, des manières de faire. Puis dis-toi, non, mon gars, tu vas en baver. Ça va être dur. Si vous pensez que la vie chrétienne, c'est facile, vous êtes sur une tangente, comme je vous dis. Avez-vous remarqué, c'est toujours le même péché qui vient cogner à votre porte? On a toutes des failles ici. On a toutes plein de failles. Je ne les vois pas, là, quand ça vous prend la tête. Moi-même, j'en ai plus qu'une même. Je suis tellement déçu quand je tombe. Ça n'a pas de sens. Comment se fait ça? Et je suis content que le chapitre 7 de Romains est là. Hein, l'apôtre Paul, après 28 ans de vie chrétienne, il va dire, je veux faire le bien, puis je fais le mal. Puis là, il révèle son intérieur, son combat spirituel. Puis là, il y a une lutte, là, puis il crie en dernier, « Oh, qui me délivra? » Vous savez, je voulais peut-être compter, il faut que je vous le dise, même ça prend un peu de temps, là. Il y a 2 ans, ça, j'étais à Toronto, je l'ai dit déjà, mais je veux le répéter pareil. Je viens d'y penser, je l'ai dit autrefois, il y a 8-9 mois, là. Hein. Il y a un pasteur qui s'en va en avant donner son témoignage. Il commence une grosse église à Toronto. Il n'a pas dit une phrase, il commence à pleurer. Il dit, j'ai passé ma vie à vouloir être divin. Avec des règles. Avec une manière de se peigner, une manière de faire ci. C'est de même qu'on fait ça, puis c'est de même qu'on fait ça, puis c'est de même qu'on fait ça, puis c'est de même qu'on fait ça. Il dit, j'ai passé ma vie à vouloir être divin. Mais il dit, j'ai réalisé dernièrement que Dieu ne m'a pas demandé d'être divin sur la planète Terre. Il m'a demandé d'être un humain qui est rempli du Saint-Esprit, qui marche pour la gloire de Dieu. Puis un jour, 1 Jean 3, 2, nous le verrons, les aînés, hein? Nous le verrons face à face. On va être semblable à lui, on va le connaître comme qu'il nous connaît. Là, on va être divin avec un nouveau corps, fini. La présence du péché même. Là, vous pensez comment ça va être capotant, ça? Être un humain rempli du Saint-Esprit. Vouloir être divin, motivé par cette fausse spiritualité d'être divin, on devient pharisien, légaliste. Où est-ce que nos petits dadas sont plus importants que les dadas des autres? Où est-ce que ma forte personnalité va vous former à mon image? Et ma ressemblance. Quand Romains 8 nous dit la seule chose qu'on est prédestiné sur la planète Terre, c'est le commencement de la transformation à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. Et la transformation commence maintenant. Elle se termine lorsqu'on voit Jésus. En attendant, on est des humains qui marchons par l'Esprit, qui marchons en sachant que si nous péchons, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède. Je vois que l'heure passe. Hein? La souffrance. Oh, il n'est pas assez important, celle-là, je la saute. Et pourquoi j'ai mis des flèches de même? Parce que la souffrance a plusieurs... Ah, je viens de m'en rappeler. La souffrance a plusieurs phases. Avoir remarqué? La souffrance, c'est bien hypocrite, hein? Ça vient en pantoufle, des fois. Des fois, ça vient en talon haut. Des fois, ça vient nu-pied. Ça vient de toutes sortes de manières, hein? Des fois, ça marche vite, ça marche tranquillement. Des fois, ça vient, on n'en aperçoit pas. Dès qu'on... Hey, j'étais-tu mal pris? Ça n'a pas d'allure. Comment endurer ça bien trop longtemps? Mais la souffrance est là. Alors, on va sauter celle-là, c'est pas important. Bon, souviens-toi de Jésus-Christ. Ah, où tu gardes, Yannick, l'image aussi. On essayait de régler ça tout à l'heure, ça ne marchait pas. Quatrième recommandation, vite, vite, souviens-toi de Jésus-Christ. Et là, mes amis, là, quand vous lisez ça, là, est-ce que vous pensez à la table du Seigneur? Mais ça ne parle pas de la table du Seigneur. Parce qu'il va le dire plus loin. Souviens-toi, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Puis c'est une belle place, la table du Seigneur, ce sauve de Jésus-Christ, mais ce n'est pas là qu'on en parle. 1 Corinthiens 11. Il va dire ici, tout simplement, regardez bien pour Paul l'essence même de l'Évangile qu'il va donner avant de mourir à Timothée. Or, issu de la postérité de David, c'est ça que tu transmets. La prophétie concernant le Messie de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, 332 prophéties de l'Ancien Testament, est accomplie en Jésus-Christ, le Messie qui doit venir. Voici. La victoire sur la mort, 1 Corinthiens 15, résurrection. C'est ça qui est important. C'est ça, souviens-toi de Jésus-Christ, là. La bonne nouvelle, c'est selon mon Évangile. Paul résume son évangile comme cela. Je ne dis pas que c'est rien que ça, mais il le résume de même rapidement avant de mourir. Là. Il met ça par écrit à Timothée de manière très personnelle. Le Messie vient de David, la victoire sur la mort et quoi? La bonne nouvelle, selon la bonne nouvelle. Deux faits. C'est la bonne nouvelle qui est conclusion. Alors, à quelque part, pour Paul, il dit, écoute, c'est important là, que dis-tu à propos de Jésus-Christ? Les aînés, vous allez m'aider, là. Que dis-tu à propos de Jésus-Christ? Un, premier test. Deuxième test, c'est le péché. Que dis-tu à propos du péché? Troisième test, c'est l'obéissance. Que dis-tu à propos de l'obéissance? Et le quatrième test, c'est l'amour. On est en train d'étudier 1 Jean le jeudi après-midi. Quatre tests. Et à quelque part, ces tests-là nous amènent à réfléchir qui est Jésus-Christ. L'Évangile, c'est pas venez à 225 Lupien, on est une vraie église de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est quoi? Venez rencontrer une personne qui est Jésus-Christ, qui a la victoire sur la mort et tout l'antécédent de tout cela, c'est énorme, là. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus venait régler notre problème. Paul, un exemple de souffrance pour laquelle j'ai souffert jusqu'à être lié comme un masfetteur. La puissance de la parole de Dieu n'est pas liée. Il fait un geste ici de lier, délier. Là. On peut être lié physiquement, mais la parole ne sera jamais liée. La preuve, c'est, on regarde des pays où il y a beaucoup de persécution pour les chrétiens, la parole sort quand même. Alors, c'est ça qu'il veut dire ici à Timothée. Cinquième et dernière recommandation, c'est pourquoi je... supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je supporte tout. Prêt à être moqué, prêt à être calomnié, prêt à être rejeté, prêt et les épreuves les plus terrifiantes ne viennent pas du monde, surtout en Amérique du Nord. Viennent pas du monde, viennent de l'Église. Les blessures les plus profondes viennent de dedans, l'Église. Et c'est pour ça que le cantique va venir. Je vous le dis rapidement, parce que je suis obligé de le faire. Je vais prendre, il me reste 2 minutes, je suis bon. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? S'identifier à sa mort expiatoire pour le pardon de nos péchés. C'est un cantique, ça, qu'il chantait dans le premier siècle. Un poème. Il disait, si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Il parle de quoi? Il parle de règne et récompense. À quelque part, il y a quelque chose qui aboutit au travers de tout cela. Ça, c'est les 2 positifs. 2 négatifs. Si nous le renions, lui aussi, nous... Hein? Lui aussi, nous, quoi? Ah! Apostasie! Là, faites pas de problème avec la perte du salut et l'apostasie. L'apostasie, là, c'est pas l'ignorance de la vérité, c'est le rejet de la vérité. Oublions pas dans Thessaloniciens ce qui est marqué, les gens dans les derniers temps, c'est l'amour de la vérité qu'ils n'ont pas. C'est pas la vérité est là, mais ils l'aiment pas. Et l'apostasie, c'est que dans l'Église, 1 Jean nous le dit aussi, les antichrists sont sortis du milieu de nous afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Au pluriel, mes amis. Il y a toute cette panoplie de Judas, les faux frères, ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Seigneur dit, vous n'êtes même pas connu. Les faux enseignants qui se glissent dans l'Église dans Jude 4 pour diviser l'Église. Si nous sommes infidèles, encore négatif, mais regardez la grâce de Dieu. C'est pour ça que je voulais le finir là. Regardez comme c'est beau. Si nous sommes infidèles. Est-ce que vous avez déjà été infidèle dans votre vie envers le Seigneur depuis que vous avez accepté le Seigneur? Une fois, d'une réunion d'affaires, je n'aimerais pas, parce que tout le monde, les vieux ne sont pas ici, là. Les vieux de la vieille d'une réunion d'affaires, là. Il y a un gars qui s'est levé, il a dit, cette année, si je n'aurais pas fait telle affaire, je n'aurais pas fait de péché. Pas des farces, je vous dis là. Ça fait longtemps, ça, des années. Ah, je ne dis pas les années non plus. Mais ça a enregistré, hein? Fais attention. C'est juste l'idée. Comment qu'on peut s'égarer dans nos pensées, le faux raisonnement, là? Hein? Dans Jacques 1, 25, là, en montant, là. Là, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut renier son nom. La persévérance des saints malgré leur moment d'infidélité. Ça, c'est une belle phrase que j'aime. Est-ce que vous connaissez, je vais terminer par la chanson. Je l'ai chantée aux aînés. On ne verra pas en avant les aînés pour les chanter. Hein? Si le chapeau te fait, mets-le don, c'est le tien. Pom, pom, pom. Si le chapeau te fait, vous comprenez l'idée? Ici, c'est un cantique-là, c'est un poème-là, c'est un poème. Tu sais, si. Alors, peu importe qui t'es dans le monde entier, il y a tel résultat pour toi. On va prier. Seigneur, on réalise combien que ta parole est riche et combien qu'on a hâte de te voir face à face, Seigneur. Et on sait que la joie de notre salut est quelque chose de précieux pour toi et de vraiment vital pour nous. Seigneur, malgré les épreuves que nous vivons, malgré ce que nous sommes en train de vivre dans nos vies, donne-nous et garde-nous dans la joie de notre salut, sachant que souffrir est un arme. Armez-vous la pensée de souffrir comme Christ a souffert dans la chair. Seigneur, dans ce monde pervers et corrompu, tricoté par les ennemis de Dieu, on ne s'entend pas qu'ils nous persécuteront jamais et ne nous feront jamais souffrir. On sait que ça va arriver. Mais à cause de tout cela, Seigneur, on se tourne vers toi, sachant que même si on est infidèle, tu demeures fidèle, parce que tu ne peux pas renier ton nom que tu as mis en nous. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu, qu'on veut te remercier que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Et continue à travailler dans nos vies. Et ta complicité avec nous, Seigneur, fais de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen.